Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, je suis Moussa Oupondé. À un jour de la signature d'un accord de paix à Washington, les FARDC dénoncent de nouvelles attaques de l'AFC M23 appuyées par le Rwanda contre leur position au Sud Kivu. Le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, accuse cette coalition de vouloir saboter les efforts de paix. Le gouvernement interdit les activités du mouvement Sauvons la RDC de Joseph Kabila sur tout le territoire. Une décision qualifiée de théâtre et distraction par le PPRD. Vous entendrez la réaction de son secrétaire permanent adjoint. En marge de la journée mondiale du sida, nous recevons ce matin Dr Didier Kaenga, secrétaire exécutif provincial du PNMLS Tanganyika. Il dresse l'état des lieux de la pandémie dans la province et revient sur le taux de prévalence, les efforts menés ainsi que les facteurs de contamination. Bonjour à tous. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dénoncent une série d'attaques menées par les rebelles de l'AFC M23 soutenues par le Rwanda contre plusieurs positions de l'armée dans la province du Sud Kivu. Dans un communiqué publié hier mardi, les FARDC estiment que ces attaques visent à mettre à mal les efforts pour faire taire les armes dans l'est de la RDC alors qu'un accord de paix doit être signé demain jeudi à Washington entre la RDC et le Rwanda. Je vous propose d'écouter le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, dans cet extrait proposé par Pauli Mousalia.
En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition de saboter les accords de paix de Washington et des Doha.
Et ces combats entre les Wazalendo associés au FARDC contre l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont poursuivis tard hier mardi dans la chefferie de Kaziba et Kamanyola dans le territoire de Walungu. Le bilan dressé par des sources concordantes fait état d'au moins une dizaine de civils tués par des obus à Kaziba et au moins 3 enfants dans le centre de Kamanyola. Plusieurs infrastructures publiques, des écoles, des églises ont été détruites. Les précisions avec Wami Ngitukulu.
La plupart des victimes sont des enfants, selon plusieurs sources contactées à Kaziba et Kamanyola. Les civils blessés se comptent aussi par dizaines, y compris un journaliste d'une radio locale de Kamanyola. Toujours d'après nos sources, ces personnes ont été touchées par des bombes larguées depuis des positions non identifiées pendant que le combat faisait rage entre le parti belligérante. Des édifices publics tels que des écoles, des églises ainsi que des résidences privées n'ont pas non plus été épargnés. 5 groupements de la chefferie de Kaziba, notamment Mumba, Ngando, Bulumbwa, Kachoze, Monsingwa ont enregistré plusieurs pertes tant humaines que matérielles selon le bilan provisoire qui nous est parvenu.
En Ituri, 2 militaires FARDC tués et 1 autre grièvement blessé. C'est le bilan d'une fusillade mardi à Djougou Centre, à 75 km nord de Bunia, entre des militaires de l'armée ougandaise, UPDF, et des éléments de l'armée congolaise. Des sources concordantes parlent d'une altercation entre ces 2 forces qui a dégénéré à la suite de l'arrestation par l'armée ougandaise de 2 civils soupçonnés d'être des miliciens de la CODECO. Un incident qui a créé de la psychose parmi la population. Martial Kizabiamungu nous fait le point.
C'est vers 10h45 ce mardi 2 décembre que les premiers coups de feu ont été entendus en Djougou centre. L'administrateur du territoire de Djougou indique que des militaires ougandais, dont certains en état d'ivresse, ont ouvert les feux en direction d'un campement de FRDC. Il s'en est alors suivi un échange de tirs entre les deux forces armées. Auparavant, d'autres sources sur place indiquent qu'un groupe de militaires de FRDC était parti au camp de UPDF pour exiger la libération des deux civils soupçonné d'être des miliciens de la CODECO, ce qui a occasionné l'accrochage entre les deux armées. Des sources sécuritaires avancent un bilan provisoire de deux militaires des FRDC tués, dont les gardes du corps du commandant de l'armée en Djougou. Un autre soldat est grièvement blessé. Des armes AK-47, des caisses de munitions et 6 chargeurs garnis emportés par des militaires ougandais. Une délégation conduite par l'administrateur du territoire de Djougou est attendue ce mercredi sur place en Djougou centre pour tenter de faire toute la lumière sur ce tragique incident. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le gouvernement congolais interdit toutes les activités du mouvement Sauvons la RDC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sur l'ensemble du territoire national. Dans un télégramme adressé lundi au gouverneur de province, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, promet des sanctions contre ceux qui n'appliqueront pas cette mesure dans leur juridiction. En réaction, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie, PPRD, membre de cette plateforme, qualifie cette décision de théâtre et des distractions. On écoute Ferdinand Kambéré au micro de Grâce Mzati.
C'est une distraction de plus. L'essentiel, ils ne sont pas là, mais ramener la population dans une distraction, là, ils sont là. Et ils sont très forts. Sauvons la RDC. Tout le monde sait que la RDC est en crise. Tout le monde sait que la guerre ici, on n'en veut pas. On continue à tuer, on continue à piller nos ressources. Mais il n'y a que ce gouvernement qui ne voit rien. Donc, sauvons la RDC qui n'a été lancée que par les forces politiques et les forces de la société civile à Nairobi, devient quoi? Ça pose maintenant un problème plus que les M23 avec lesquels ils sont en train de parler. Tout le monde attend la signature du 4 décembre à Washington. Comment ça va ressembler ce qui va être signé là-bas? Parce que la mise en garde est là-bas. Elle vient aussi de sauver la RDC parce que nous ne voulons pas que tout ce qui est en train d'être signé par ces régimes soit au prix de sacrifier la souveraineté, l'intégrité du territoire. Et ici, ça devient, maintenant c'est lui qui dit sauver la RDC qui devient un ennemi. C'est dans le cœur de la population, c'est tout le monde qui le répète. Ils vont arrêter qui? Ils vont créer des prisons pour arrêter tous les peuples lorsqu'ils disent sauver le Congo, sauver la RDC.
Analyser et mieux comprendre les causes des conflits liés à la terre et renforcer la sécurité foncière, c'est l'objectif d'un atelier qui s'est tenu hier mardi à Kinshasa. Ces assises ont permis de valider les études des références et d'analyser des risques fonciers réalisés dans plusieurs provinces du pays. Une étape clé de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme foncière soutenu par ONU Habitat et les partenaires techniques. Les précisions avec Enoch Katumbi.
Cette session de 3 jours rassemble des coopératives multisectorielles. À travers cette démarche, le ministère du Développement Rural vise d'abord à identifier ces coopératives, à les structurer et à leur fournir des moyens de recherche afin qu'elles participent efficacement au redressement de l'économie nationale.
Nous voulons doter des coopératives des moyens de gestion et des moyens réels de comprendre qu'est-ce que c'est une coopérative. Pour éviter à ce que nos frères et sœurs, surtout qui sont dans les milieux ruraux, puissent être dupés.
Pour le ministre d'État, ministre du Développement Rural, si ces coopératives sont bien structurées, elles peuvent créer de l'emploi dans toutes les régions du pays et contribuer tant soit peu à freiner l'exode rural que connaît le pays. Grégoire Moutchaï Mouton.
Kinshasa est saturé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici. Ils ont leur chance de se développer dans les territoires. Si nous structurons très bien nos coopératives, ils peuvent travailler dans tous ces secteurs et se mettre ensemble, créer des emplois.
Plusieurs structures nationales et internationales prennent prépare à cet atelier dans la Banque africaine de développement BAD. Celle-ci appuie les projets de développement en RDC, notamment celui en cours sur la transformation de l'agriculture qu'elle finance à hauteur de 374 millions de dollars américains.
Vous avez plutôt suivi le reportage de Blaise Ndongala qui a parlé de l'atelier organisé par le ministère du développement rural du 2 au 4 novembre à Kinshasa, un atelier de réflexion sur la structuration et l'accompagnement des coopératives. Cette initiative annoncée lors du dernier conseil de ministres est mise en œuvre par le ministre des tutelles, Grégoire Mouchaïle Moutombe. Venons-en à présent à ce reportage de Nok Katumbi sur l'analyse des causes des conflits liés à la terre et le renforcement de la sécurité foncière débattu lors d'un atelier qui s'est tenu hier mardi à Kinshasa.
Ces travaux visent à mieux comprendre les causes des conflits liés à la terre et à renforcer la sécurité foncière, notamment dans les zones où la pression sur les ressources naturelles reste élevée. Les études menées dans 6 provinces ont permis de collecter des données essentielles pour orienter les futures décisions d'aménagement du territoire et améliorer la gouvernance foncière en RDC. La ministre des Affaires foncières, Onej Ntselemimpa, est revenue sur les bien fondés de cette activité.
La réforme foncière, elle répond par ailleurs à une des nécessités historiques, mettre fin aux incohérences accumulées, aux conflits récurrents, aux pressions croissantes sur nos terres et à la dégradation préoccupante de nos forêts, pour ne citer que ces défis-là.
La validation nationale de ce rapport doit permettre leur appropriation par tous les acteurs concernés avant leur diffusion large. Les partenaires espèrent que ces résultats contribueront à réduire les conflits fonciers et à préserver les forêts conformément aux engagements du pays.
À Kindu, dans la province du Maniema, l'atelier de formation des journalistes sur la réduction des risques de catastrophes naturelles s'est clôturé le week-end, organisé par Hub RDC. Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités des professionnels des médias sur les principes et pratiques liés à la réduction des risques de catastrophes. L'objectif, leur permettre de couvrir ces sujets de manière responsable et efficace. Dans une province comme le Maniema, régulièrement touchée par des catastrophes naturelles, cette initiative a suscité un vif intérêt parmi les journalistes désireux d'accompagner la communauté face à ces défis. Reportage Florence Kizalunga.
À l'instar d'autres villes, Kindu est menacée par les catastrophes naturelles. Préparer la population en amont pour faire face à ces catastrophes naturelles, c'est tout le sens de ces projets, comme l'explique Bertin Kaundo, superviseur au centre de Midefops.
Son objectif, c'est de préparer la communauté aux inondations, parce que vous savez, la ville est exposée toujours au risque d'inondation. Et c'est à travers ces projets, nous allons mettre en œuvre des activités qui permettent d'anticiper. Donc, on ne doit pas attendre que les inondations arrivent, mais déjà, on doit proposer des activités, des actions opérationnelles qui permettent aux gens déjà de se préparer à ces risques-là. Et lorsque les gens sont bien préparés, ils savent comment se prendre au cas où les problèmes arrivaient.
Les maires attendent de ces projets que la population de sa juridiction soit suffisamment formée en matière de prévention de risques. Atibou Moulamba.
Dans les temps passés, on enregistrait les inondations tous les 10 ans. Et maintenant, là, c'est chaque année qu'il y a inondation. Voilà pourquoi nous attendons de cet atelier que notre population soit suffisamment formée pour non seulement éviter ces risques-là, mais au cas où ils se produisaient, qu'est-ce que cette population peut faire? Et aussi demander à la population de ne pas construire dans des zones qui sont inondables.
La durée d'exécution de ces projets est de 2 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, lancement lundi de la construction d'une dizaine de dalots dans différents axes routiers de desserte agricole du secteur de Rouenzori, initié par l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, ICCN. La construction de ces petits ponts servira à désenclaver plusieurs entités agricoles coupées de communication depuis plusieurs années. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Ces dalots ou petits ponts sont construits sur les axes Ourara, Nzenga 1, Nzenga 2 et dans la commune rurale de Boulongo. Ils serviront à désenclaver plusieurs entités agricoles situées vers la partie nord et ouest du secteur de Rwenzori, coupées des communications depuis plusieurs années. Dans cette zone, les érosions avaient détruit tous les petits ponts des fortunes construits par la population. Désormais, et grâce à cette initiative, la population pourra évacuer plus facilement ses produits champêtres vers les grands centres de consommation, notamment Mutuanga, Boulongo, Kasindi, Beni et Butembo. Selon le chargé de communication de l'Institut congolais projets pour la conservation de la nature de la région, 8 dalots vont être construits dans la première phase de ce projet qui va durer environ un mois. 3 autres petits ponts en état de délabrement avancé vont également être remplacés, toujours dans la même région. Pour Jean-Paul Katembo, bourgmestre de la commune de Boulongo et représentant du chef de secteur à cette activité, ces projets répondent à une demande urgente des communautés locales confrontées depuis plusieurs années au délabrement avancé de cette route et de ces ponts. Ils visent également à renforcer les liens de confiance et à démontrer que la conservation du parc contribue aussi au bien-être des populations riveraines. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée-Bissau, la commission électorale annonce qu'elle ne va pas publier les résultats des élections. Moins de 7 jours après la prise de pouvoir par les militaires et la suspension de l'ensemble du processus électoral, la commission électorale nationale a pour la première fois convoqué la presse hier mardi. Elle a annoncé qu'aucun résultat de la présidentielle ne sera finalement publié. Cela alors que, lors de sa visite lundi, la CDAO, mais aussi l'opposition et la société civile ont appelé à la publication des résultats de la présidentielle.
L'invité.
Notre invité est le docteur Didier Kahenga, secrétaire exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS Tanganyika. En marge de la célébration le 1er décembre de la journée mondiale du sida, il fait un état des lieux de cette pandémie dans la province du Tanganyika. Il évoque notamment le taux de prévalence, les efforts fournis pour lutter contre la pandémie et les facteurs de contamination. Docteur Didier Kahenga s'entretient avec Paulin Monanga.
Docteur Didier Kahenga, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin Monanga.
Quelle est la situation épidémiologique du VIH-Sida dans la province du Tanganyika?
La séroprévalence au niveau de la province est estimée à 2,3%. Et au niveau des zones de santé, nous avons 11 zones de santé au niveau du Tanganyika. Et les zones de santé les plus affectées, nous avons la zone de santé de Moba, où on estime à 3% de la séroprévalence. Et cette séroprévalence, si vous voyez bien, elle est plus élevée, même plus que celle de la province. Suivie de la zone de santé de Nyemba et de Kalemi, estimée respectivement à 1,7 et 1,4. Mais ce qu'il faut savoir, que la zone de santé des Kiambi, d'Ankoro, ce sont des zones de santé où il y a une faible prévalence.
Et quels sont les facteurs qui favorisent la contamination de cette maladie dans la province du Tanganyika?
Parmi les facteurs qui sont à risque au niveau de la province par rapport à la lutte contre le VIH dans le cadre des contaminations, lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés, ça c'est un risque que vous courez pour être infecté, parce que vous ne savez pas votre partenaire quel est son statut sérologique. D'où nous appelons notre population à utiliser le préservatif. Il y a le transfusion sanguine qui se fait au niveau des hôpitaux. Lorsque vous avez votre enfant malade, il faut l'amener dans une structure équipée et là où il y a le paquet VIH. Parce que si ça nécessite la transfusion sanguine, cette transfusion doit passer par des examens fiables. Nous avons aussi certaines catégories de populations qui sont à risque. Nous avons les PDI, qu'on appelle les populations déplacées. Nous avons aussi le pêcheur, les camionneurs, les migrants internes. Nous avons les cas de violences sexuelles basées sur le genre. Nous avons aussi le flux commerciaux transfrontalier. Il faut toujours sensibiliser les femmes à aller au CPN, aux consultations prénatales. C'est très important parce qu'il y a des femmes qui mettent au monde à la cité, voire même ces femmes mettent au monde à la maison, ce qui n'est pas encourageant. Il faut aller dans les structures appropriées. Et lorsqu'on va dans des structures appropriées, on passe par le CPN, on peut être dépisté volontairement par le VIH-Sida.
Une personne atteinte du VIH-Sida peut vivre longtemps actuellement avec cette maladie dans le corps. Mais à quelles conditions, docteur?
Si et seulement si la personne est soumise sous traitement qu'on appelle les antirétroviraux. La politique sanitaire de l'ONU SIDA, qui est notre partenaire de taille, dit ceci. Il faudrait 95% de la population totale puisse connaître son statut sérologique. Lorsque les 95% de la population connaissent leur statut sérologique, il faudrait 95% de cette population soit soumise sous traitement ARV antirétroviraux. rétroviraux. Et dans les 95% de la population soumise sous ARV, il faudrait qu'il y ait 95% de la population soumise sous ARV puisse éliminer la charge virale. Éliminer la charge virale, c'est que il faut que votre charge virale devienne indétectable dans le sang, dans votre corps humain. Et lorsque vous éliminez cette charge virale, vous n'allez pas transmettre le virus. Vous n'allez pas contaminer les autres. C'est ça même notre lutte. Informer notre population, sensibiliser notre population, pour que cette population arrive à faire le dépistage volontaire, qui est gratuit, ces dépistages au niveau du pays, et en particulier au niveau de la province. Comme c'est un dépistage gratuit volontaire, nous sommes là pour amener notre population à se faire dépister.
Quels sont les efforts que le PNMLS Tanganyika fournit dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA?
Il y a eu des efforts que nous, PNMLS, en collaboration avec le gouvernement provincial, que nous avons menés et nous continuons à mener. Il y a eu des plaidoyers au niveau du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale. Actuellement, la province du Tanganyika a un point focal nommé par l'Assemblée provinciale, le point focal VIH. Nous avons fait des plaidoyers au niveau de partenaires techniques et financiers. Nous avons eu un appui financier où nous avons mené certaines activités telles que les sensibilisations au niveau des écoles, des églises, des populations clés et même des populations générales. Il y a le défi tel que le financement qui a diminué sensiblement, surtout les financements USAID.
Docteur Didier Kaenga, je vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Polly Mousalia et mis en onde par Alain Ngoy. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.radiookapi.net.